Et bonjour à tous, ravi de retrouver pour cette émission du samedi 11 juillet 2026, les archives de l'architecte, épisode 13. On part immédiatement avec des dissonances et divergences au sein de l'économie mondiale, avec les actions US qui ont progressé grâce à l'IA et semi-conducteurs encore et toujours, le Dow Jones qui recule et les small caps également pour cette semaine, le pétrole qui prend plus 4 à plus 5,5 entre le Brent et le WTI, l'or qui baisse légèrement avec un domaine obligataire qui est sous pression encore et toujours, un Bitcoin qui consolide autour de 64 000 et des rendements donc pour les obligations au-dessus de 5% de nouveau pour le 20 et 30 ans. L'Europe, pour sa part, sous-performe avec un risque inflationniste de l'énergie toujours présent et des perspectives de hausse de la taux de la BCE qui sont toujours sur la table, mais c'est également le cas pour la Fed aux États-Unis. Action et Fed dans l'attente avec une introduction sur la bourse américaine de SK Hynix, 26,5 milliards levés. Une offre qui a été sursouscrite 7 fois, titre en hausse de 14% ce vendredi. On a Samsung également qui annonce une multiplication de 19 fois de son bénéfice opérationnel trimestriel. Malgré tout, à court terme, le marché sanctionne. Comme quoi, malgré des fois des résultats rocambolesques, eh bien, il y a toujours les marchés, les prises de bénéfices, etc. Aux US, l'économie est encore en expansion et le marché du travail plutôt stable. L'Europe et la Chine connaissent une inflation qui ralentit légèrement, c'est plutôt positif. Pour une BCE peut-être qui n'augmentera pas à nouveau les taux. La tech, l'IA et le cloud continuent de tenir à bout de bras l'ensemble. Les matériaux et la santé ont sous-performé, notamment aux États-Unis. Hors commodités et obligations, le pétrole progresse de plus 4 à plus 5,5% sur cette semaine, en cause les reprises du côté du détroit d'Ormuz et des tensions qui n'ont pas l'air immédiatement de s'apaiser. L'or recule également de quasiment 2% cette semaine, malgré le risque géopolitique. Les taux réels et anticipations plus restrictives de la Fed pèsent à court terme, le tout avec des obligations longues qui sont toujours au-dessus de 5 points pour le 20 et 30 ans aux États-Unis et en Europe, le Bund 10 ans de l'Allemagne progresse de plus 3%, soit la hausse la plus importante du trimestre. Le Bitcoin et crypto en ont un BTC qui progresse de plus 3% cette semaine autour de 64 000 dollars. Ethereum recule de moins 8 par rapport à la semaine dernière. On a eu une vente de 3 588 Bitcoin par stratégie Michael Saylor à hauteur de 216 millions pour payer les dividendes des différentes tranches qu'ils ont émises. La tendance de fond, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière et depuis pas mal de temps du cycle de 4 ans, reste jusqu'ici intacte avec un point bas final entre la fin d'été et cet automne, si tant est que le point bas n'a pas d'ores et déjà été fait autour de 57 000 dollars. Semaine prochaine à suivre, mardi l'inflation aux États-Unis avec la prise de parole de Kevin Warsh pour la Fed, mercredi le prix à la production États-Unis et le PIB chinois. Jeudi, vente au détail États-Unis et résultats de TSMC. Autres résultats d'entreprise, les bancaires, JP Morgan, on a Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc. Netflix, BlackRock, Johnson & Johnson et des attentes de résultats qui resteront très élevées autour de la tech. On part au niveau de l'analyse technique avec un graphique qui ne connaît pas la crise, c'est le money supply, money stock du côté des États-Unis avec là aussi une progression très linéaire et haussière au travers du temps. Et aujourd'hui, on a franchi donc les 23 T, trillions, trilliards, je ne sais pas comment ils le mesurent eux de leur côté, et surtout la traduction quand on parle de trillions, trilliards, etc. entre les États-Unis et l'Europe, à chaque fois, c'est un petit peu touchy. Donc, c'est 23,05 T. Vous me direz dans les commentaires les professionnels de ça, de la conversion, et on peut constater à cette occasion qu'en effet, eh bien, en 2022, il avait suffi de passer de 21,8 à autour de 20,76 et on avait eu une nette contraction, y compris du côté des actions. On a en effet les taux, qu'ils soient courts ou longs, qui progressent également positivement. On avait le S&P 500 qui a clôturé dans le vert et finalement, ça n'a pas l'air de vouloir se laisser abattre même au cours de cet été 2026 pour le marché américain à 7575, sachant qu'on a un ATH autour de 7600 et quelques, donc on n'en est vraiment pas très loin. Ça permet au CW8 et au WPEA pour ceux qui sont sur les indices monde de progresser également. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que le 15 juillet à Mundi, pour ceux qui ont un PEA et qui sont en France, vont pouvoir investir désormais dans un All World Country à partir de 5 €. Il y aura 0,30% de frais annualisés et ça englobe 2400 des plus grosses sociétés mondiales, incluant eh bien, l'Asie et les émergents. Donc c'est plutôt positif pour ceux qui se disaient que par exemple, eh bien, le CW8 et le WPEA sont mal diversifiés quelque part, puisque on a un indice monde qui est pondéré à plus de 70%, je crois, aujourd'hui autour des États-Unis. Ça permet de réduire un petit peu cette pondération et d'avoir un truc peut-être un peu plus dispersé, un peu plus élargi en effet, et très certainement que ça va intéresser pas mal de monde. Donc ça sera lancé le 15 juillet et vous pourrez l'avoir sur vos PEA en France. Le CAC 40 qui clôture dans le vert vendredi, 8338, ça continue de faire un petit peu le yo-yo, moyenne mobile 50 et moyenne mobile 20. L'indice des semi-conducteurs, le SOX Philadelphia, donc semi-conducteur index du côté de TradingView, progresse également sur la semaine, mais on voit que voilà, on est dans une consolidation qui est comprise entre les 12 000 points et l'ATH qui se trouve aujourd'hui autour de 14 600 points et plus. L'Eurostox 600 qui a progressé légèrement donc depuis deux semaines, mais on voit le retard finalement de l'Europe par rapport aux États-Unis. Le dollar qui a toujours pas dit son dernier mot, le DXY bloqué autour de 101 points, mais on avait bel et bien acté la dernière fois ce breakout des 100 points. Repasser sous les 100 points serait peut-être un signal un peu plus bear à court terme pour le dollar, tandis que pour l'instant le scénario joué pour cet été jusqu'à l'automne serait plutôt à terme un retour autour de 103 points sur cette médiane de range de l'ère Trump, puisque elle va durer là aussi encore pour deux ans à partir de l'automne où il va y avoir les mid-terms. Il est à noter également que le Russell marque le pas, donc l'indice des small cap qui avait bien progressé ces temps-ci, et on n'avait pas de corrélation malheureuse avec les crypto-monnaies, y compris Bitcoin, qui malgré tout pour l'instant se tient plutôt pas mal au vu des enjeux du moment. Le gold 4120, ça fait pas mal de temps que dès lors qu'il travaille un petit peu en dessous des 4000, il a tendance à se poser. Les oscillateurs ont quand même creusé relativement bas, donc je me dis que cet été on pourrait avoir ici une construction de points bas autour de 3900 à 4000 et plus pour le gold. Si jamais ça lâche, et eh bien ça se passera en dessous des 3009, et finalement visuellement c'est assez simple. On a des fibos ensuite à 3600 pour le 0,5 et le 0,618 qui se trouve à 3135, mais c'est vrai qu'on est déjà sur une purge majeure, puisque souvenons-nous qu'on avait un top local récent autour de 5600 dollars l'once pour l'or. On passe du côté des bonnes vieilles crypto-monnaies, 2180 milliards pour le crypto total qui bataille entre la moyenne mobile. Alors la rouge, j'ai changé, d'habitude c'était la moyenne mobile à 100 semaines, je l'ai mise à 300, puisque c'est un truc intéressant. On voit que par le passé, et notamment quand il y a eu la déroute de 2022 avec Terra, avec FTX, etc., on est venu travailler pas très loin de la moyenne mobile à 300 semaines, et là une fois de plus on a quasiment touché cette zone autour de 1970 milliards, ce qui correspond du côté de Bitcoin à 57 000. Je vais essayer systématiquement de vous faire la traduction quand je suis sur le crypto total, parce que ça parle plus à l'auditoire, je suppose, de parler en prix de Bitcoin qu'en milliers de milliards, ce qui est normal. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, on a l'impression que cette correction de moins 53, moins 54% de mèche à mèche sur Bitcoin aujourd'hui n'est pas complètement folle par rapport à ce qu'on a connu par le passé, des moins 85, moins 90, moins 77, etc. Et pour autant, on est dans les clous de ce qui s'est passé en 2022 avec un retour à la moyenne mobile à 300 semaines, dû au fait que, pourquoi ici à l'époque c'était aussi grand en termes d'amplitude et de volatilité, puisque le Bitcoin avait progressé, souvenez-vous, de 3000 à quasiment 70 000. Sur ce cycle de 2023-2025, on a fait 15 000 à 125 000 et ça n'était pas rien, mais c'est vrai que aujourd'hui, voilà, la question va perdurer malheureusement au cours de cet été. Point bas, pas point bas, 50 000, pas 50 000. Est-ce que même on peut aller en dessous de 50 000? En tout cas, aujourd'hui, quand on observe les données on-chain, etc., les données long terme, c'est clair que, voilà, quand on dit qu'on avait une box comme ça à l'origine, c'est une box qu'on a mise quasiment au début de ce bear market en se disant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on risque de revenir quelque part entre 40 et 60, si on fait un résumé. Et voilà, j'avais pris relativement large 35 000 parce que on sait à quel point les bear markets peuvent être traumatisants et peuvent aller beaucoup plus bas que ce qu'on se le matérialisait à l'origine. Aujourd'hui, la moyenne mobile à 300 semaines, eh bien, par exemple, elle se trouve autour de 55 000 dollars. Et on sait qu'on a un prix réalisé qui, récemment, je crois qu'il était autour de 53 000. Vous me corrigerez, je vous dis ça de tête, hein, bien entendu, si c'est 56, 57, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais on est dans ces eaux-là, à quelques milliers de dollars près. Je crois que la dernière itération là, des données on-chain, c'était plutôt autour de 53. Donc tout ce qui se passe finalement autour de cette zone de 50 000 à plus ou moins 5 000 dollars, je pense, peut intéresser pour du long terme. On aura suffisamment de Bitcoin sous l'eau, euros, etc., pour pas aller travailler quelque part autour de 40 000. Ce qui fait aussi que aujourd'hui, je pense résolument qu'on peut déplacer cette petite box. Au fur et à mesure du temps, on pourra l'ajuster pour la réduire et pour la mettre dès aujourd'hui 60-40. Je pense pas qu'on ait besoin fondamentalement d'aller en dessous de 40. Et surtout, il y a tellement de gens qui risquent d'être intéressés pour ne serait-ce que jouer d'un point de vue purement psychologique comme d'habitude, mais surtout d'un point de vue du ratio risque-récompense dont on parle régulièrement et qui intéresse finalement les investisseurs et les traders, c'est de se dire si on vient à 50 000 et qu'on a un potentiel d'appréciation jusqu'à 150 000 pour le cycle d'après, donc basiquement 1x3, voilà, il y a quelque chose ici, quand on prend une position à 50, on met potentiellement un stop à 40 ou en dessous les 40 et on peut jouer derrière 1x3, c'est de la gestion du risque basique, hein. Je ne suis pas en train de dire que voilà, ça va faire ça, j'essaie de vous donner la manière de fonctionner et de réfléchir finalement d'un fonds, d'un gestionnaire ou de qui que ce soit qui voudra se positionner ici. Déjà, là, on sent petit à petit, malgré tout, que les vendeurs sont en train, pour l'instant en tout cas, de s'épuiser un petit peu. Est-ce qu'ils reprendront la main pour aller chercher cette zone de travail autour de 50 000, comme d'hab, à plus ou moins 5 000 dollars? Mais en tout cas, en l'état, et au vu du bear market crypto qui aura duré le temps qu'il doit durer d'habitude, qui aura commencé, mis sous pression pendant que le reste des marchés aux États-Unis continuait de progresser, l'IA, la tech qui brille plus que jamais, tous les flux qui sont dirigés vers elle et les regards aussi, puisque c'est une question d'attrait. Comment les bottoms se posent au niveau du marché crypto et du Bitcoin, c'est une phase de désintérêt pur. Comment le cycle haussier se réamorce, c'est une phase d'intérêt qui revient crescendo. Et au plus le prix d'un actif monte, au plus il devient désirable. En tout cas, c'est comme ça qu'on réfléchit d'un point de vue un peu psychologique animal. Il est à noter également, puisqu'il y a une petite divergence par rapport au crypto total quand on regarde le prix de Bitcoin, c'est qu'on était venu travailler sur le cycle précédent, légèrement en dessous au niveau du prix de BTC. On l'avait dépassé à la baisse de moins 14%. Aujourd'hui, moins 14% par rapport à la moyenne mobile à 300 en semaine, ça nous ramène une fois de plus à 47 000 dollars. Donc toute cette zone de 50 à plus ou moins 5 000, c'est une zone qui, je pense, intéressera largement peu importe quel participant de marché qui regarde le ratio risque-récompense, qui regarde le on-chain, qui regarde les bitcoins détruits, les bitcoins sous l'eau, le CVDD, tout ce que vous voulez, tous les indicateurs possibles et inimaginables, ça nous ramène systématiquement autour de cette zone. La question est-ce que les vendeurs arriveront à pousser le prix jusqu'ici? On a Ether qui reprend un petit peu de force à 1800, mais beaucoup de volatilité là aussi ces 2-3 dernières semaines entre 1500 et 1850 dollars. On voit qu'on a toutes les moyennes mobiles au-dessus de la tête, donc désormais ça sera étape par étape pour Ether. Et quand on demande un petit peu aux IA et notamment les dernières qui vraiment ont des réflexions logiques et probabilistiques, etc., qui sont assez poussées, ça reste quand même vachement dégradé. Les espoirs à 1 an, 2 ans, 3 ans par rapport à Bitcoin, donc faites très attention aux allocations que vous pouvez en faire. Il y a toujours un potentiel d'appréciation qui est plus important que Bitcoin, mais au détriment et au risque de perdre plus et d'avoir beaucoup plus de volatilité. Donc c'est exactement ce pourquoi sont créés les marchés financiers, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de gain sans risque et c'est quelque chose qu'il faut retenir systématiquement. Il n'y a ni rendement sans risque, il n'y a ni contrepartie sans risque, il n'y a pas d'investissement sans risque tout court. Circle qui a repris plus 5 hier et c'était sur une bonne nouvelle puisqu'ils sont désormais autorisés à agir comme une banque d'après ce que j'ai compris. Je vous invite à challenger ce que je suis en train de vous dire puisque pareil, je lis beaucoup de choses sur une journée et je vous retranscris tout ça parfois de tête, mais il y a eu une très très bonne nouvelle pour Circle qui est sur un support finalement ici. Alors c'est pas un gros support au vu du temps d'existence de cet actif en introduction en bourse, mais autour de 65 dollars pour ceux qui ne l'avaient pas eu précédemment autour de 50, voilà, on a quand même ici un discount qui est quand même assez important. On peut constater à cette occasion que SBET, ALBG, MicroStrategy ont clôturé dans le vert, mais MicroStrategy, voilà, c'est toujours compliqué. Il faudra repasser plus tard au-dessus de 140 à 160 dollars pour espérer remettre les choses en place. C'est quelque chose qui est extrêmement volatile, là aussi, MicroStrategy, donc qui reste extrêmement risqué pour votre portefeuille. Il faut en avoir conscience si on se positionne sur ce genre de choses. Au rayon des peut-être un peu moins tendances, j'ai envie de vous dire, il y a Coinbase, $160, qui a défendu à 4-5 reprises désormais les 145-146 $. C'est une zone qui compte pour le marché. Il faudra reprendre les 180 à 190 et ensuite on a une MM50 plus tard à 235. Facebook Meta qui est en train de rattraper son retard sur l'IA, plus 6%. Donc en deux semaines, elle passe de 540 à 670. On a un ATH à venir chercher à proche des $800 pour Meta. C'est le cas également de Nvidia qui reprend du poil de la bête, à peine au contact de la moyenne mobile 50 la semaine dernière, $190, de retour à 210. Ceci étant dit, c'est ce qu'on disait la dernière fois, quand bien même Nvidia peut-être sera la première société au monde un jour à peser 10 000 milliards, elle en pèse aujourd'hui 5 000. Donc comme d'hab, est-ce que le potentiel d'appréciation vaut le coup d'y mettre tous ces fonds au profit, bien éventuellement voilà, sur 3, 4, 5 ans, de faire plus 50%, plus 70% ou quelque chose comme ça? Ou bien est-ce qu'il faut dénicher des valeurs qui sont soit value, soit sous-cotées, décotées? Voilà, comme d'habitude, après chacun fait ce qu'il veut de son portefeuille. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui se positionnent sur Nvidia. Mais il faut réfléchir aussi en termes de rendement, en termes de risque court terme, du potentiel de bulle de l'IA aussi. Et c'est vrai que ce qu'observent les PE par rapport au global du S&P, etc., à ce jour, il y en a plein qui défendent la thèse, et c'est réel par rapport aux PE, par exemple, de Tesla ou de boîtes qui sont valorisées x180, je crois, par rapport à leurs bénéfices. Nvidia est autour de 20. Je sais pas, ce matin, je crois avoir vu passer 18-19 pour l'une, et il y avait 21-23 pour l'autre. Je sais plus si c'était Nvidia et une autre. Bref, Nvidia est autour de 20 par rapport à son PE, ce qui est excessivement peu par rapport aux autres actions, par rapport au Super 7, par rapport à un Tesla qui est x180, vous voyez un petit peu le delta. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi qui plaident dans le sens que Nvidia aujourd'hui n'est toujours pas surcotée par rapport à ce qu'elle délivre. Et d'un autre côté, eh bien voilà, il n'y a pas non plus argent infini sur la planète, bien que ça puisse se discuter, parce que aujourd'hui, quand on voit le money supply, la façon dont il progresse continuellement, eh bien on a bien conscience que l'argent de singe qu'on utilise au quotidien, et c'est la beauté de Bitcoin et de ses 21 millions fixes, eh bien se dévalue avec une inflation complètement folle au travers du temps, pour la monnaie de singe, pas pour Bitcoin. Donc voilà, je termine ce petit laïus autour de ça, mais c'est vrai que Nvidia, certes, c'est quelque chose aujourd'hui dont on ne peut pas détourner le regard, j'ai envie de dire, en tant que boursicoteur qui s'intéresse un petit peu à la tech, etc., et à l'IA, mais d'un autre côté, le potentiel d'appréciation, est-ce qu'il est à la hauteur justement des attentes, et est-ce que les attentes ne sont pas trop hautes par rapport à la réalité qui va nous rattraper tôt ou tard? C'est toujours important de rappeler ces bases élémentaires. On continue un petit peu dans les rouges ce coup-ci avec Netflix, moins 3%, c'est toujours pas glop. On continue d'essayer de poser un point bas non loin des $70. Il y avait Robinhood également qui s'est fait un petit peu repousser en fin de semaine, moins 3, autour de $112, mais après une belle progression ces dernières semaines, donc rien d'extraordinaire. Côté luxe français, Hermès qui continue de batailler sur cette zone de 1650 €. C'est une zone très très importante pour le long terme. C'est toujours bien dégradé, mais on est potentiellement en train d'essayer de faire le point bas pour Hermès. On a FDJ également qui essaie pour la France de se reprendre, peut-être boosté un petit peu par la Coupe du Monde, etc. Mais ça reste un titre qui, pour le court moyen terme, est quand même pas mal dégradé. On était venu à 20 € autour du prix d'introduction, donc en novembre 2019, donc à voir ce que ça pourrait donner, mais on avait eu donc un ATH pour FDJ à 51 €. Voilà, je sais pas ce qui, au niveau du business model, l'État qui soit partie prenante là-dedans, etc., je sais pas trop ce que ça peut donner. Il y avait eu une belle intro qui avait été une intro contre-intuitive par rapport à tous les Cassandres qui disaient que ça serait catastrophique pour les particuliers, et après au long terme, en effet, ça s'est dégradé, et surtout il y a eu des changements un peu de direction sur les acquisitions et sur comment est gérée la boîte, etc. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu ça aussi qui est puni, en tout cas pour le court terme. Au rayon des positifs pour les altcoins, on avait tout ce qui était Lido, Morpho, AAV, voilà, la DeFi qui reprenait un petit peu du poil de la bête. Ceci étant dit, quand on regarde le Lido token, il est extrêmement baissier contre le dollar, donc inutile de vous dire qu'il l'est tout autant, voire beaucoup plus face à Bitcoin. Ceci étant, on a petit à petit des divergences qui sont en train d'apparaître au niveau du cours sur des timeframes relativement importants en hebdomadaire. On va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que du côté des altcoins aujourd'hui, et c'est là toute la problématique, Comme on dit souvent, il y en a 5 qui se tiennent véritablement bien au travers du temps. Et les 5, c'est pas des grands secrets, ça va être des trucs, si on pouvait citer comme ça, le portefeuille que tout le monde a l'air d'avoir aujourd'hui au niveau du crypto Twitter ou des trucs comme ça. La plupart du temps, on voit passer Bitcoin avec un petit peu d'Ether, avec du Hyperliquid pour ceux qui sont là ces dernières années et qui supportent bec et ongle ce projet, avec du Solana, et après vous mettez le cinquième que vous voulez, BNB, Doge si vous êtes du côté des Memcoin, Ondo si vous êtes du côté des Real World Assets, voilà, vous faites absolument ce que vous voulez, Tao, BitTensor pour l'IA, et en gros, déjà, vous avez un petit bag sympa. Il y en a qui continuent de supporter également tout ce qui est comme AAV pour la DeFi, d'ailleurs le token de AAV qui est lui-même en train de faire son point bas, on est venu quand même autour de $57, ça fait 2-3 semaines qu'il travaille autour de 95, donc il y a de fortes chances, en tout cas pour le court terme, qu'il rallie dans un premier temps eh bien, les 112 à $137 ou attend la moyenne mobile 200. Mais pareil, il y a eu tellement de changements de règles, entre guillemets, autour du domaine, autour du projet en tant que tel, ces derniers trimestres, qu'on ne sait plus trop à quel sein se vouer. Et quand on parle de long terme, eh bien, au final, on finit inéluctablement par revenir autour de Bitcoin. Pourquoi ? Parce que ça représente un risque de ruine qui est infiniment inférieur à tous les autres qu'on vient de citer, et que sur une quinzaine d'années bien dépassées, désormais, il n'y a que lui qui, au cours de ce fameux cycle de 4 ans en 4 ans, d'itération en itération entre deux halvings, a démontré une progression quasi continue, malgré des bear markets qui ont fait reculer la première des crypto-monnaies du marché de moins 70, moins 80, moins 90%. Quand on regarde sur 4 années roulantes, eh bien, voilà, c'est le seul qui a prouvé eh bien, sa résilience ultime, qui a prouvé qu'il était haussier sur plus d'une quinzaine d'années. Et ça, malheureusement, quand on observe les altcoins factuellement, de 2 ans en 2 ans, déjà, c'est compliqué. De 4 ans en 4 ans, ça l'a encore plus. Alors imaginez, sur un double cycle de 4 ans, sur 8 ans, la plupart du temps, il ne reste que de la poussière. Côté Asie, on a Xiaomi qui continue de push. Donc, sur 2 semaines, il est passé de 21,48 à 25,84. Plutôt pas mal, mais voilà, on s'est arrêté un petit peu au milieu de nulle part ici, j'ai envie de vous dire. Donc on va voir si construction de points bas il y a. En tout cas, cette semaine, beaucoup de titres ont été exécutés et on est au contact de la moyenne mobile 200 semaines. Alibaba également, qui progresse donc depuis 2 semaines de 92 à $112 sur le NYSE. On a une zone de confluence à venir chercher autour de $120. Les indices pour le Japon, le Nikkei à 69 200, le Topix à 4036. Toujours pas de signaux précis de ce côté-là. Et enfin, les taux longs au Japon qui, contrairement aux États-Unis, c'est peut-être quelque chose à prendre en considération et à voir en termes d'anticorrélation le pourquoi du comment. Le Japon, 30 ans, recule de moins 4% et le 20 ans de moins 4,60. Alors même qu'on l'avait vu du côté des États-Unis, on est très très haut avec un 20 ans à plus de 5 points et le 30 ans, pareil, 5,60, qui est pas très loin de venir chercher de nouveau son ATH. Donc aujourd'hui, on a cette problématique aussi pour le reste des marchés hors la tech, hors l'IA et tout ce qui va bien, c'est d'avoir un marché obligataire qui est un peu en mode cocotte minute et qui parfois, on l'a vu, c'était quoi, il y a une quinzaine de jours, on avait des chiffres du chômage qui sont sortis qui étaient bons et malheureusement, ça a eu un effet négatif sur le marché. Donc aujourd'hui, plus que jamais, je pense que jusqu'au midterms de Trump, là, autour de cet automne, il faut un petit peu faire gaffe à ce qu'on fait, continuer de profiter, bien entendu, de ces super valorisations et de ces super dynamiques qu'on voit du côté de l'IA et des infrastructures semi-conducteurs et tout ce qui va bien, mais tout en ayant bien en tête que cette partie de l'économie qui actuellement tire le reste de l'économie ou la tient un petit peu, selon qu'on voit le verre à moitié vide, à moitié plein, à bout de bras, ça ne pourra pas durer indéfiniment. On reste dans un monde avec pas mal d'inflation. La BCE a déjà augmenté ses taux. La question qui va persister jusqu'à cet automne, est-ce que la Fed va suivre ? Et ça, pour l'instant, le marché ne veut pas y croire. Mais si la Fed était obligée d'augmenter les taux, ça serait quelque chose qui pour le court terme n'aurait pas forcément été anticipé et pourrait justement donner une période d'opportunité et une fenêtre baissière pour le marché américain dans son entièreté. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Pour ma part, je retrouve la semaine prochaine, maximum au cours de cet été, une fois par semaine pour ce récapitulatif de l'actu. De notre côté, beaucoup de choses sont en train de changer, de bouger, avec notamment la reprise du média par une personne qui ne sera plus moi, donc je ne serai plus au courant recommande. Je continue bien entendu de vous faire cette revue de l'actualité du côté de YouTube une à deux fois par semaine, très certainement une fois comme je le disais à l'instant au cours de cet été, puisqu'il n'y aura pas grand chose à dire en tout cas pour le moment. Et ensuite vous retrouverez la continuité du format long, les Financial Tales, une fois par mois, on espère à terme deux fois par mois, mais voilà, ça ne sera plus moi qui serai à la tête de cette équipe derrière. Petit à petit, je suis en train de faire la transition vers quelque chose de complètement différent, ce qui fait aussi que je n'aurai plus de partie prenante financière autour de FinTales, etc. Mais on en rediscutera un peu plus dans le détail quand il y aura besoin, tout simplement, eh bien, de faire le point sur la chaîne, sur le devenir de la chaîne, etc. Et les réseaux sociaux sur lesquels on est toujours présent, mais pareil, à aujourd'hui, ça n'est plus moi qui m'en occupe, donc petit à petit, voilà, c'est une activité qui a été très chronophage sur les dernières années, qui pour ma part arrive un petit peu en bout de route, et j'espère eh bien, que vous continuerez d'y trouver votre compte, que vous continuerez de trouver votre route également autour de ça. Je ne quitte pas le navire bien entendu, mais c'est vrai que j'ai pris ces dernières années pas mal de recul sur cette activité, et je suis pas mécontent aujourd'hui de, on va pas dire avoir un repreneur, mais avoir une personne qui a été là dès le premier jour de CM et qui va permettre finalement à ce média de perdurer, d'exister. Et on l'espère qu'on aura encore plein de belles choses à vivre ensemble, que ça soit au niveau des marchés traditionnels, mais aussi du marché crypto. On l'a jamais laissé tomber pour autant. On trouve toujours ça intéressant, mais c'est vrai que ces dernières années, il y a tellement eu de choses qui ont brillé sur des secteurs qui n'étaient pas autour de la crypto que c'était difficile d'avoir un média comme ça et de le faire perdurer tout simplement au travers du temps. Il y a beaucoup finalement de médias qui mettent un petit peu la clé sous la porte, au même rythme finalement que les entreprises liées au secteur et à l'écosystème. Donc c'est aussi la réalité d'un bear market et la réalité d'un créateur de contenu, que c'est pas toujours simple de notre côté et qu'on essaie eh bien, au bout d'un moment soit de pivoter pour continuer à délivrer quelque chose, soit il y en a malheureusement qui s'éteignent en cours de route. C'est à l'image de la vie, c'est un peu triste parfois, mais c'est comme ça et ça nous permet de continuer d'avancer. Et j'espère que également pour vous, que vous soyez des récents sur cette chaîne ou que vous soyez des très anciens, vous avez réussi à trouver votre route et que vous réussirez petit à petit à vous frayer un chemin dans cet océan déchaîné de la finance mondiale, dans lequel on apprend finalement un petit peu à la sueur de notre front, à la sueur de nos portefeuilles. On gagne un petit peu d'argent, on en perd beaucoup, on en regagne parfois beaucoup aussi, mais c'est des hauts et des bas, c'est des montagnes russes. Et c'est pour ça que au long terme, pour essayer de ne pas être biaisé par notre psychologie, par nos réactions et par les réseaux sociaux aussi qui sont omniprésents aujourd'hui et qui apportent un flux d'informations continue qui est complètement monstre, il faut savoir temporiser, mettre des garde-fous, se dire ok, là si je réagis comme ça c'est pour quelle raison, est-ce que c'est normal, est-ce que j'ai vu quelqu'un en parler positivement, etc. Et à partir du moment où vous arrivez à faire ce travail de votre côté, vous verrez que ça se passe infiniment mieux et voir sur du long terme que ça peut porter ses fruits. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.